Radio de la Paix, il est 12h. Le bulletin de midi, Mel Emmanuel.
Merci de choisir Radio de la Paix, 12h, c'est l'heure de l'information. La Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec ses pays voisins, déclare le porte-parole du parti au pouvoir, le RHDP, en réponse aux accusations portées contre le gouvernement ivoirien par le président burkinabé. Dans le cadre de la lutte contre la désinformation en ligne, le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire, Razala OCI, lance à l'intention de la jeunesse un projet dénommé « Ma minute numérique sécurisée et résiliente ». Hors de nos frontières au Kenya, deux nouveaux suspects ont été arrêtés mardi dans l'affaire de l'assassinat de 42 femmes. Revenant en Côte d'Ivoire, nous irons à Mans pour nous enquérir de l'état de la voirie en cette saison des pluies, sujet qui vous sera proposé dans un dossier d'actualité. Et nous terminerons ce bulletin avec l'invité de la rédaction, Antoinette Coucougnon, vice-présidente du FPI chargée de la région du Boclay, de l'écologie et du développement durable. Elle exprimera les inquiétudes de son parti pour l'environnement suite à l'octroi de permis de recherche minière accordé à 5 compagnies par le gouvernement. Bonjour à toutes et à tous. Accusation contre les autorités ivoiriennes de vouloir déstabiliser le Burkina. Le porte-parole du parti au pouvoir déclare que la Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec ses pays voisins. Le ministre d'État, Kobenon Kwasi Adjoumani, était face à la presse mercredi dans la tribune d'échange, les rendez-vous du RHDP au siège du parti, où il a également dit « prier pour le Burkina Faso afin que la paix revienne et qu'il y ait des élections ». Nous l'écoutons.
Il nous accuse, il dit qu'il a des preuves, mais nous attendons. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec les pays qui nous environnent. Au contraire, ce sont nos frères et sœurs. Et vous avez vu le dispositif mis en place par le gouvernement ivoirien pour accueillir tous ces frères et sœurs qui sont abandonnés par la peur, qui ont des difficultés réelles à vivre dans leur pays et qui trouvent comme refuge la Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays de paix, un pays d'hospitalité, la terre promise où tous ceux qui se sentent persécutés dans leur pays peuvent venir se reposer. Et nous n'allons pas donc soulever la polémique. Nous sommes un pays de paix et nous entendons nous engager dans la voie de la paix. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons prier pour que le Burkina Faso sorte des difficultés qu'il connaît afin que la paix revienne et qu'il y ait des élections sur la base, bien sûr, de la notion de démocratie et qu'on en finisse avec les coups d'État. Donc nous préférons répondre à cette question par le silence qui est plus assourdissant que toute autre forme de réponse.
Propos du ministre d'État, Kobenon Kwasi Adjoumani, porte-parole du RHDP, rapporté par Linda Ballier. Une campagne pour sensibiliser les jeunes aux bonnes pratiques numériques. C'est une initiative du réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire, Razala OCI, est baptisée « Ma minute numérique sécurisée et résiliente ». Le projet lancé mercredi va s'achever le 3 août prochain à Bounoua et sur le choix de la cible, suivons les explications de Dr Angèle Ouraga, chef de projet qui plaide aussi pour son élargissement en vue d'y inclure un volet sur les élections.
Ma minute sécurisée et résiliente va consister à former de jeunes hommes et de jeunes filles. La tranche d'âge, c'est de 18 à 35 ans pour que nous puissions ensemble adopter des comportements sécurisés, des comportements résilients au niveau du numérique. Parce que la jeunesse constitue plus de 77% de la population ivoirienne. Nous avons parlé de l'extension du projet Ma minute numérique sécurisée et résiliente contre la désinformation et les discours de haine pour des élections inclusives, apaisées, sans violence et sans armes en Côte d'Ivoire. Et également un deuxième plaidoyer, la vulgarisation de la doctrine de la police de proximité au sein des communautés pour une solution durable contre la violence communautaire, notamment le terrorisme, l'extrémisme violent ainsi que les menaces sécuritaires du moment. Donc pour dire quoi, ces deux plaidoyers-là, parce que les élections présidentielles arrivent à grands pas, parce que nous savons combien de fois la période électorale envoie des sentiments d'insécurité, la période électorale amplifie des psychoses et combien de fois des discours de haine, même sont prononcés par nos politiques, et également la mésinformation, la désinformation, ces éléments qui circulent sur les réseaux sociaux. On ne cherche même pas à comprendre et on essaie de vulgariser ces informations. On ne vérifie même pas également les sources. Donc ce projet-là est bienvenu.
Docteur Angèle Ouraga, chef du projet Ma Minute Numérique Sécurisée et Résiliente, dans des dires recueillis par Jean-Mélène Bitti. Au centre de la Côte d'Ivoire, la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire Durable de l'Université Alassane Ouattara de Boaké a procédé récemment au lancement de ses activités de formation au titre de l'année académique 2024-2025. Objectif, former des apprenants capables de contribuer au développement dans les domaines des collectivités décentralisées, de l'environnement, du social et de l'économie. Écoutons le professeur Dédé Kwame Eric, chargé de la formation.
Nous avons des licences et des masters. Et ces licences et ces masters s'inscrivent dans une mention qu'on a dénommée PROTED, qui veut dire prospective et territoire durable. Et à ce niveau, nous avons deux parcours. Quand on parle de parcours à l'université, ce sont des domaines de spécialisation sur des aspects pratiques et puis sur des aspects thématiques. Et à cet effet, nous avons un parcours en prospective et gouvernance territoriale. Et ce parcours en prospective est un parcours qui a un premier cycle et un second cycle. Ce parcours nous permet d'outiller les différents apprenants aux politiques et stratégies de management des entités territoriales. Comment connaître aussi les tests réglementaires? Il est sur une durée de 3 ans avec 6 semestres. Et le second cycle, c'est le master en prospective et management des collectivités territoriales. Lui, il se tient sur 2 ans avec 4 semestres. À côté de prospective environnementale et développement durable, un parcours qui s'adresse à tous ceux qui sont intéressés par les questions environnementales. Il y a aussi les aires protégées, la déforestation, tous ces aspects-là. Nous voulons donner une nouvelle approche, celle qui intègre l'anticipation.
Professeur Dédé Kwame Eric, chargé de la formation de la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire Durable de l'Université Alassane Ouattara de Boaké, au micro de Joseph Assalé, notre correspondant dans le Boaké. Une note de culture dans ce bulletin. Tradition et numérique, c'est le thème de la 4e édition du Festival Way de Makori, FestiWem, qui se tiendra du 13 au 15 août prochain au stade Conan Raphaël. Au-delà des différentes disciplines artistiques et culinaires qui seront proposées, cette année, un volet scientifique permettra de mettre en lumière les œuvres et réflexions de plusieurs promoteurs de la culture Way. Le lancement de cet événement a eu lieu mercredi au foyer polyvalent des jeunes de Makori sur l'importance du thème et son impact sur la communauté. Écoutons Olivier Hirot, commissaire général du FestiWem.
La plus grande fange que nous voulons scotcher à notre culturalité, c'est la jeunesse. Nous savons qu'elle est 24 heures sur 24 scotchée à son téléphone. Donc il faut les retrouver sur leur smartphone pour leur dire voici votre culture. Et pour nous, en pensant au numérique, c'est voir comment le numérique fait la promotion, fait la protection même du patrimoine culturel. Aujourd'hui, vous pouvez visiter un musée sans y avoir mis pied. C'est-à-dire que le numérique peut apporter beaucoup à la tradition, pourvu qu'on y pense, pourvu qu'on ait une réflexion là-dessus. Vous entendez très souvent, c'est un Wabé, c'est un Guéré, mais ce sont des notions qui n'existent pas dans notre ethnie. Donc il faut reparamétrer, il faut reprendre pour dire non, je ne suis pas un Guéré, je ne suis pas un Wabé, je suis un Wé. Parce que dans ma langue, c'est le mot Wé qui est autorisé. Donc l'appellation contrôlée de ce groupe ethnique-là, c'est les Wé. Et en ce moment-là, vous verrez que partout, le changement est en train de s'opérer. Comment un peuple réussit à se représenter plutôt que vivre des préjugés qu'on lui colle.
À l'instant, Olivier Hirot, commissaire général du Festival Way de Makori, FestiWem. Hors de nos frontières, au Kenya, l'affaire du tueur en série présumé de Mukuru a pris une tournure significative avec l'arrestation de 2 nouveaux suspects. Cette évolution survient après la présentation de Collins Jumaisi Kalusha, accusé d'avoir assassiné 42 femmes. Lundi, la police kenyane l'a présenté comme le principal suspect dans cette affaire. Accusé de meurtres multiples, ses aveux sont cependant remis en question par son avocat qui affirme que ses confessions ont été obtenues sous la torture. mesure. Le mardi suivant, deux individus ont été appréhendés dans le cadre de l'enquête. Amos Moyanyi Mogusu a été arrêté à la sortie d'un bar à Nairobi, tandis que Moses Ogembo, un résident de Mukuru, a été interpellé en possession de 154 téléphones portables appartenant aux victimes. Les investigations ont révélé que ces appareils avaient été achetés auprès de Collins Jumaissi, le principal suspect. Retour en Côte d'Ivoire et direction la ville de Mans dans l'ouest du pays. L'axe routier Sari reliant les quartiers d'Omoreux et Bepleu connaît un état de dégradation très avancé en cette saison des pluies. Une situation qui dérange les habitants des 10 quartiers et automobilistes qui se déplacent difficilement dans cette partie de la commune. Plus de détails dans ce dossier d'actualité proposé par Stéphane Adams.
Des grands creux, des eaux stagnantes jonchent la rue bitumée presque inexistante. C'est le visage sombre du tronçon Lassari, l'une des voies principales d'accès au quartier d'Omoro et Gbepleu, situé en plein cœur de la commune de Mans. Difficile pour les automobilistes de circuler en toute quiétude.
Il n'y a même pas de route. Ici, vraiment, on souffre, sérieusement. C'est beaucoup de panne. La fois dernière, quand il a plu, il y a un taxi communal comme moi quoi, qui est resté dans l'eau ici. Et puis, il est venu, il a appelé les soudeurs, ils sont déplacés, il a soudé dans le trou. Vraiment, c'est pas facile. Mon cri de guerre, j'ai dit au monsieur le maire, vraiment, il n'a qu'à faire des efforts encore. C'est pas facile, mais il n'a qu'à faire des efforts.
Aujourd'hui, conduire sur ce tronçon est un véritable parcours de combattant pour les automobilistes, comme celui-ci qui a plié l'échine.
Je me dis hier, je fais les taxis. Hein. Moi, je n'arrive pas là-bas. Hein. C'est à cause de l'état de la route, il n'y a pas de route. Bidon, tout est cassé, cassé. Il y a le trou même profond. Ça fait que ça gâte la voiture, quoi. Vraiment, ça nous fatigue. Une fois que tu vas, tu prends la route pour arriver là-bas. Là. Au retour, déjà, tu as beaucoup de panne. Donc, faut aller au garage, aller réparer les trucs. Donc, ça fait qu'on n'arrive pas là-bas.
C'est qui favorise l'incivisme sur cette voie si précieuse pour les usagers.
Pour laisser, il faut être prudent. Il faut venir doucement, être courtois. Tu laisses passer ton ami et après, toi-même, tu passes. Sans ça, c'est le désert total.
Une situation bien dommageable pour les habitants et mécaniciens situés à proximité.
Ça va au moins 30 minutes que je suis là. Pour avoir un taxi à cause de la route, c'est trop gâté. C'est une grande voie. On attend actuellement le maire à ce qu'il vienne à nos aides. Parce que vraiment, on souffre. Il n'a qu'à beaucoup penser à nous. Arranger la route pour nous.
C'est à Sati Lidiane. La route est gâtée, c'est mal gâté même. C'est le gros gros trou. Et puis quand il pleut même là, il y a des taxis même qui se noient dans l'eau là-bas. On souffre. On ne sait pas ce qu'on va faire. Donc pardonnez, donc arranger la route là. Là, on va bien vivre.
Les voitures, quand la route est gâtée, là, ils viennent verser le sachet dans le moto ici. Donc là, quand on a mis les cailloux, les pignes au bord de la route là. Ça nous fatigue ici trop. Mais quand il pleut là, on n'est pas en sécurité.
Comme si cela ne suffisait pas. Les canalisations le long de la voie pour l'évacuation des eaux de ruissellement des pluies sont bondées d'ordures. Comme conséquence, des maladies et des odeurs nauséabondes, une situation qui affecte les riverains.
Les canaux sont bouchés, donc ce qui fait que les eaux n'arrivent pas à circuler normalement. Ça stagne là et il y a beaucoup de moustiques en ce moment. Donc ça aussi, ça fatigue les habitants que nous sommes.
Devant toutes ces préoccupations, vivement que l'entretien de ce tronçon soit pris en compte pour le bonheur et la sécurité des usagers. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Dernier temps fort de ce journal, c'est l'invité de la rédaction. Le 26 juin dernier, lors du Conseil des ministres, la Côte d'Ivoire a octroyé 9 permis de recherche pour l'or, le nickel, le chrome, le cobalt et les terres rares à 5 compagnies minières. Après cette annonce, le Front populaire ivoirien, FPI, a dit s'inquiéter des conséquences sur les populations et l'environnement. Cette préoccupation est portée par notre invité de ce jour, Antoinette Coucougnon. Elle est la vice-présidente du FPI chargée de la région du Boclet, de l'écologie et du développement durable. Et répond aux questions de Paul Bénédicte Bolo.
Antoinette Coucougnon, bonjour. 9 entreprises de recherche ont été attribuées par décret à des entreprises qui exercent dans le secteur des mines en Côte d'Ivoire. Dès cette annonce, le FPI a dit s'inquiéter. Pourquoi ?
Nous sommes à l'ère de l'écologie, à l'ère de la protection de l'environnement. L'extraction en Côte d'Ivoire, quand on regarde le ratio, on se rend compte que ça ne profite pas aux populations. Il n'y a pas un indice de développement sur ces zones-là. C'est pour ça qu'on dit que ça ne peut pas contribuer au développement d'une région. À côté de cela, on sait les produits chimiques qu'on utilise pour faire ce type d'extraction. Donc, ce n'est pas forcément avec une pioche et une pelle. Il y a des produits chimiques pour faire ressortir l'or. On utilise, par exemple, du cyanure. Le cyanure, ça a un impact sur la santé des populations, sur la nappe phréatique et tout ça. Et même les végétaux, il y a les animaux aquatiques et tout ça. Donc, on se dit que si on peut octroyer un permis à une entreprise qui rapporte au tonnage beaucoup d'argent au pays, mais on ne peut pas multiplier jusqu'à 9 et puis aller parcourir la moitié est du pays. Ça veut dire que dans toutes les contrées, on va avoir et les clandestins qui vont fouiller le sol avec tous les risques que ça comporte, les risques d'éboulement, et les entreprises certifiées qui vont venir creuser ici. Ça participe de la déforestation. La palette est grande, hein. Il y a même les risques environnementaux, il y a même la destruction des sols, il y a la recomposition des... Si on prend une zone X et qu'on permet que 3 entreprises minières soient dans cette zone, il faut voir les animaux, les espèces endémiques vont être impactées négativement. D'ailleurs, à Zouan-Ounier, dans la minerai d'Iti, ils ont utilisé le mercure, mais ça, ils ne vont jamais le dire. Et dans leur truc de décantation, ils n'ont pas maîtrisé des éléments et il y a eu une fuite. Et ça s'est déversé dans le fleuve. Les populations ont mangé le poisson parce qu'ils pensaient que c'était un pain béni. Et aujourd'hui, ils sont intoxiqués. Donc, la paupérisation faisant, les gens sont obligés de se nourrir au rabais. Et puis, voilà la conséquence. Pour marquer le développement, on a besoin d'autre chose. On n'a pas forcément de multiplier jusqu'à 9.
Il s'agit plus de recherche et non d'exploitation. Alors, pourquoi le FPI affiche déjà cette inquiétude?
Ah oui, en amont, il faut s'inquiéter parce que quand ils commencent, on ne sait pas ce qu'ils mettent dedans. Parce que s'ils ont trouvé tout de suite, ils peuvent se dire, on a le permis, on se permet de faire quelques fouilles et tout ça. Déjà, il faut alerter le monde, il faut alerter. Parce qu'il n'y a pas une ligne de démarcation pour dire, bon, d'aujourd'hui à demain, vous faites les recherches, après demain, vous faites les fouilles et tout ça. S'ils ont trouvé que c'est concluant, ils vont y aller. Ils ne vont pas attendre les 4 années qu'on leur a fixées, ils vont y aller. Il y a une entreprise qui a obtenu un permis de faire des recherches sur le littoral dans la zone de la forêt classée de Dasioko jusqu'à Sassandra. Et vous savez, le littoral dans cette zone-là regorge de mangroves, de marais qui sont les lits des animaux aquatiques. Quand vous fouillez là, qu'est-ce que vous faites? Il y a des villages qui vont être délocalisés. Même si la fouille là, c'est pas dans l'immédiat, mais il y a des risques. Ça va forcément avoir un impact.
Dites-nous comment l'on doit procéder.
Pour savoir qu'il y a de l'eau, il faut utiliser le CNI. Même si par télédétection, on peut voir qu'il y a de l'eau quelque part, mais pour vérifier, pour voir la véracité, il faut faire une fouille, prendre des échantillons, il y a toujours ça. Jusqu'à 9, c'est énorme pour un pays en voie de développement. Où nous, on est en train de crier, il ne faut même pas permettre de faire des recherches. Parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas besoin pour le développement du pays. On peut l'utiliser à une autre période ou à une autre ère, mais pas maintenant.
Quelles sont les données dont dispose le FPI pour aujourd'hui exprimer, on va dire, votre inquiétude?
Le gouvernement ivoirien s'évertue à faire des campagnes de reforestation pour lutter contre la désertification. Mais au jour d'aujourd'hui, avec tout l'argent qu'on donne à ce gouvernement, avec les appuis techniques extérieurs et tout ça, on se rend compte que la forêt de plus en plus est réduite. Qu'est-ce qui fait ça? Il y a tout un mystère autour de ça. C'est-à-dire que rien ne prouve que tout de suite, là, on doit s'inquiéter. Mais en même temps, on s'inquiète parce qu'on dit qu'il y a des personnes qui ont l'habitude de ne pas bien faire les choses. Il faut s'inquiéter dans tous les cas.
Pour l'experte en écologie et développement durable que vous êtes, hein, comment on doit justement se faire ces recherches?
Si moi, je suis contre, je ne vous dis pas comment ça se fait. Moi, je suis contre l'exploitation maintenant, en 2024, 2025, 2026. Je m'oppose à ça. À un moment, ils voulaient faire l'extraction sur le littoral, mais comment est-ce qu'on peut faire l'extraction de quelconque minerai sur le littoral? Dans les pays développés, ça n'existe pas.
Que dites-vous sur la création de la plateforme de collaboration de consultation politique créée par le gouvernement relativement à l'action climatique nationale?
Quand on fait l'état des lieux en matière d'environnement et tout ça, il est toujours important de créer des mécanismes, des outils pour permettre la lutte contre le réchauffement climatique. Ça dépend maintenant de ce qu'on met dedans. Déjà, c'est un acquis en matière d'institutions et de cadres juridiques. C'est pour ça que nous applaudissons. Mais il faut aller plus loin pour voir qu'est-ce qu'on met dedans. Est-ce que ce n'est pas encore pour nourrir le laxisme des Ivoiriens et que la pléthore d'institutions aussi peut créer aussi cet effet-là? Donc, dans un premier temps, on félicite le gouvernement parce que le réchauffement climatique est un fait réel et donc on verra par la suite comment il fonctionne.
Antoinette Coucougnon, merci infiniment.
Merci, au revoir.
Au revoir.
La vice-présidente du FPI chargée de la région du Boclet de l'écologie et du développement durable, Antoinette Coucougnon, était l'invitée de la rédaction. Revenons au titre de ce bulletin. La Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec ses pays voisins, déclare le porte-parole du parti au pouvoir, le RHDP, en réponse aux accusations portées contre le gouvernement ivoirien par le président du Burkina. Et puis hors de nos frontières au Kenya, deux nouveaux suspects ont été arrêtés mardi dans l'affaire de l'assassinat de 42 femmes. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Ghislain Koulibaly pour la revue de presse.
Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette revue de presse, les journées inaugurales des mandats municipaux,